Bonsoir. Le Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement a réaffirmé qu'il s'en tenait à ses préalables pour aller au véritable dialogue en RDC. Cette plateforme l'a déclaré le week-end dernier lors d'une rencontre avec le groupe de soutien à la facilitation du dialogue. Cependant, à quelques jours de la clôture du dialogue politique, l'opposition qui participe à ces assises a suspendu sa participation aux travaux. Quelle analyse faire de cette situation? Nous en parlons avec Bienvenue Joseph Mabondo. Il est politologue et il est l'auteur d'un ouvrage sur les dialogues politiques intercongolais intitulé La multipolarisation de l'économie congolaise avec le concours des puissances étrangères. Bonsoir, bienvenue Joseph Mabondo.
Bonsoir Kimati.
Israël Moutala, il est journaliste, il est aussi analyste économique et politique. Bonsoir Israël Moutala.
Bonsoir.
Et Dany Singoma, directeur général du Centre national d'appui au développement et à la participation populaire, CNADEP en sigle. Il est aussi membre de l'Observatoire de la société civile pour le suivi du dialogue. Bonsoir, Dany Singoma.
Bonsoir.
Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Rencontre dimanche dernier au quartier général de la MONUSCO entre le Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement et les groupes de soutien à la facilitation du dialogue conduit par Saïd Djinit, envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies dans la région des Grands Lacs. Au menu, le dialogue politique national. Selon Bruno Tshibala, porte-parole de l'IDPS, les échanges ont été fructueux et la balle reste dans les camps du groupe de soutien à la facilitation pour la résolution de la crise politique qui se dessine en RDC. On écoute Bruno Tshibala, interrogé par le journaliste au sortir de cette rencontre.
Le rassemblement a rappelé sa position telle qu'elle est résumée dans les termes de référence qu'il a publié récemment. C'est une première rencontre. Il y a eu un échange fructueux. Nous restons en attente de la réaction du groupe des soutiens.
Est-ce qu'on peut espérer qu'après cet entretien, il pourra y avoir une évolution dans votre position?
Le rassemblement tient à ses exigences, donc à ses préalables. S'il y a évolution du côté du groupe des soutiens pour nous permettre d'aller au véritable dialogue, il y aura effectivement changement de position.
Et là, vous allez prendre les trains qui a déjà démarré ou bien vous allez recommencer les choses?
Il n'y a pas de train qui a démarré quelque part. Le vrai dialogue va commencer lorsqu'on aura réglé tous les préalables posés par le rassemblement, parce que nous nous en tenons à un véritable dialogue conformant à la résolution 2277 et à l'accord cadre d'Addis Abeba.
Est-ce que, arrivé le 19 décembre, le rassemblement sera toujours favorable à un dialogue?
Nous avons donné notre position en ce qui concerne le 19 septembre. C'est que le compte à rebours va commencer parce que nous avons donné un préavis à M. Kabila. Donc, au 19 septembre, sachez que l'ensemble des actions qui sont prévues par le rassemblement vont entrer en action.
L'opposition a suspendu ce lundi 12 septembre sa participation au dialogue en vue de se concerter au sujet de l'élection que la CENI devra organiser en priorité. Avant de quitter la salle, les opposants ont proposé que la centrale électorale débute l'organisation des élections par la présidentielle couplée des législatives et provinciales. La majorité présidentielle, elle souhaite que la CENI commence par les locales et termine par la présidentielle après la refonte totale des fichiers électoraux. Le point avec Kéline Couté.
Selon le porte-parole de l'opposition, des divergences de vues sont apparues dans l'adoption des séquences électorales. Pour l'opposition, l'élection présidentielle doit avoir lieu avant toute autre élection, alors que la majorité souhaite que l'on commence par organiser les élections locales pour terminer par la présidentielle. Jean-Lucien Boussa, porte-parole de l'opposition politique au dialogue.
Dans les principes conducteurs du dialogue, il a été convenu qu'il faut respecter la Constitution. Or aujourd'hui, que pour notre part, c'est l'élection du président de la République, couplée aux législatives ou couplée aux provinciales, mais d'abord l'élection présidentielle. Nous avons noté que la majorité, elle, a préféré les élections locales et municipales qui risquent de laisser le président de la République ses mandats au pouvoir pendant plus de 3, 4, 5 ans.
En réaction, la composante majorité présidentielle au dialogue qualifie la décision de l'opposition politique de suspendre sa participation à ce forum de, je cite, « stratégie des négociations », fin de citation. La MPD espérait que les divergences seront aplanies au cours des négociations. Emmanuel Chadari, co-modérateur de la commission thématique élections.
Lorsque on voit qu'il y a des divergences, il faut chercher une voie de sortie. Je crois que ce qui va se faire, ils ont donc suspendu pour aujourd'hui. On va voir si les négociations vont nous permettre de trouver une solution à cette question.
Signalons que dans un communiqué publié après les travaux de ce lundi, le facilitateur du dialogue EDEM Kujo a fait savoir que des consultations ont déjà commencé afin de créer des conditions propices pour la reprise des travaux des commissions thématiques.
Merci Kéline Kouté. Bienvenue Joseph Mabondo. Je rappelle que vous êtes politologue, vous êtes auteur d'un ouvrage sur les dialogues politiques intercongolais intitulé « La multipolarisation de l'économie congolaise avec les concours de puissances étrangères ». Le Rassemblement réitère sa position, celle de voir ses préalables être pris en compte avant toute participation au dialogue. Pendant ce temps, l'opposition suspend sa participation pour raison des divergences. Comment vous analysez une telle situation?
Merci Guimaté. Je commence d'abord par rectifier. J'ai publié un ouvrage sur les crises récurrentes de notre pays. Et ce n'est pas un ouvrage sur le dialogue intercongolais. Toutefois, lors de sa réédition, j'en ai profité pour parler du dialogue congolais sur 5 pages, tout simplement.
Okay, merci.
Alors, ma position par rapport à ce qui se passe, c'est que j'ai honte de mon pays en ce moment, à cause de l'image pathétique, honteuse que nous présentons au monde. Il y a de cela 14 ans, les politiques congolais étaient assis en Afrique du Sud pour débattre des crises récurrentes. Et notre constitution, en son exposé des motifs, dit clairement, depuis son indépendance, le 30 juin 1960, la République démocratique du Congo est confrontée à des crises politiques récurrentes, dont l'une des causes fondamentales est la contestation de la légitimité des institutions et de leurs amateurs, des animateurs. Cette contestation a pris un relief particulier avec les guerres qui ont déchiré le pays de 1996 à 2003. Envie de mettre fin à cette crise chronique de légitimité et de donner au pays toutes les chances de se reconstruire, les délégués de la classe politique et de la société civile, forces vives de la nation, réunies en dialogue intercongolais, ont convenu dans l'accord global et inclusif signé à Pretoria en Afrique du Sud le 17 décembre 2002 de mettre en place un nouvel ordre politique fondé sur une nouvelle constitution démocratique sur base de laquelle le peuple congolais puisse choisir souverainement ses dirigeants au terme des élections libres, pluralistes, démocratiques, transparentes et crédibles. Alors, on a mis fin à toutes les crises récurrentes il y a de cela 14 ans. D'où vient qu'aujourd'hui on se retrouve encore là avec une crise et le monde entier en train de nous assister pour venir dialoguer à nouveau? Pour quelles raisons sommes-nous encore là? Sincèrement, j'ai honte de mon pays. Mais je pense, à mon avis, que la solution est très facile à trouver. Très facile.
Voilà, vous avez...
du constat, mais...
Vous avez rappelé qu'il y a de cela 14 ans, les Congolais se sont réunis en Afrique du Sud, n'est-ce pas, pour essayer de réfléchir sur les crises récurrentes qui sévissaient au pays. Et vous estimez qu'on avait mis fin à ces crises récurrentes. Et vous vous posez la question de savoir pourquoi on doit encore aujourd'hui revenir à des négociations. Et vous ne pensez pas que c'est un cycle, finalement un cycle infernal dans lequel le pays s'est placé, parce que depuis les indépendances, nous commençons par les négociations, après nous aboutissons au compromis, et après les compromis c'est des crises, et après ces crises là on revient aux négociations. Depuis l'indépendance, c'est le cycle infernal que nous vivons. Comment vous pouvez expliquer cette situation?
Personnellement, j'explique cette situation par le manque de sérieux de la classe politique, c'est tout. Je ne vois pas une autre raison. Et le monde se moque de nous quand tout le temps nous les appelons pour venir nous aider à dialoguer. On n'a même pas besoin, normalement, de dialoguer avec des personnes étrangères. Nous appelons ça dialogue intercongolais, mais celui qui nous aide à dialoguer n'est même pas congolais. Alors que ce pays regorge des plus grands intellectuels africains. C'est humiliant si, vraiment pour dialoguer, nous avons besoin des étrangers. Sincèrement, c'est humiliant.
Les préalables du rassemblement sont notamment la récusation du facilitateur et la libération des prisonniers politiques et d'opinion, tandis que l'opposition pro-dialogue exige la tenue de la présidentielle avant les autres élections. Monsieur Mabondo, à votre avis, quelles pourraient être les marges des manœuvres de la facilitation pour concilier ces divergences qui, il faut le souligner, sont fondamentales?
À mon avis, la question des élections du président de la République est déjà traitée par la Constitution. Je ne sais pas pourquoi on va y revenir. La Constitution fixe la périodicité à laquelle l'élection présidentielle doit avoir lieu. Si aujourd'hui nous nous retrouvons dans cette situation et qu'il faille changer ça, eh ben c'est aux hommes politiques de discuter de ça. Mais je ne vois pas tous les hommes politiques assis dans une salle pour résoudre cette question. Il ne suffit pas de remplir 200 personnes pour régler ça. C'est une question qui peut être réglée par quelques personnes qui pèsent réellement par rapport à ce que la population attend d'eux. Bon, quant à la réquisition du facilitateur, bon, je sais que c'est pas quand même commode aujourd'hui publiquement de dire que nous réquisons tel facilitateur et que ça se passe comme ça. Même la communauté internationale n'accepterait pas qu'il soit humilié de cette façon-là. Pour la libération des prisonniers, personnellement, je n'y vois pas non plus d'inconvénient. Il ne suffit que à la classe politique de dire qu'on libère ces hommes politiques et ça passe. En Afrique du Sud, vous vous rappelez, après la fameuse réconciliation, eh ben, il y a eu cette commission dirigée par Monseigneur Desmond Tutu qui a gracié combien de personnes qui ont fait des crimes et des crimes. Donc aujourd'hui, ceux qui se retrouvent en prison, quelles que soient les raisons qu'on avance, je trouve que c'est pour l'intérêt de la nation, c'est humiliant de les laisser en prison. On peut s'asseoir et terminer les problèmes de notre pays.
Merci Israël Moutala. Je rappelle que vous êtes journaliste, analyste économique et politique. Comment vous analysez cette situation?
Je partage l'avis de tous les Congolais qui pensent que c'est une crise de trop, c'est une crise... qu'on pouvait absolument éviter, et c'était une crise évitée et évitable et à éviter. Malheureusement, nous sommes là, mais moi je pense que du fait que la crise est là, il faut absolument la traiter. Et pour la traiter, il n'y a pas 36 solutions. La voie du dialogue est la voie indiquée. Mais encore faudra-t-il que justement le pouvoir qui est à l'origine de cette crise soit de bonne foi. Or, jusque-là, le pouvoir semble ne pas être de bonne foi avec la question de la séquence électorale, avec la question des préalables posés par le rassemblement. Ce sont, je pense, des conditions qui sont à sa portée et que s'il y avait une volonté politique de sortir de cette crise, elle a tout intérêt à répondre favorablement à tous les préalables posés par le rassemblement. Notamment la libération des prisonniers politiques et d'opinion, l'abandon de poursuites judiciaires et fiscales contre notamment aussi Moïse Katumbi, Martin Fayoulou, la libération de proches de Katumbi et de Tshisekedi. Je fais allusion à Diomi, je fais allusion à Jean-Claude Muyambo, je fais allusion à Wit Mulongoy. Bref, je pense que il y a plusieurs solutions qui sont vraiment à la portée de la majorité pour essayer de décrisper la situation politique et de permettre que le pays ne puisse pas s'enliser dans la crise. Et
l'opposition suspend sa participation aux travaux du dialogue après avoir concédé à la majorité la refonte totale du fichier électoral. N'est-ce pas une grande victoire pour la majorité présidentielle?
Je pense que d'abord c'est une victoire partielle, mais c'est quand même une concession de taille qu'a concédé l'opposition. La responsabilité d'organiser les élections incombe au gouvernement. C'est au gouvernement de doter la CENI de moyens, de lois en temps utile justement pour lui permettre de remplir ses obligations constitutionnelles. Or, le gouvernement a failli sciemment et donc sa responsabilité politique, sa responsabilité morale était totalement engagée. Mais l'opposition qui a accepté, du moins Vital Kamerhe avec l'UNC ainsi que d'autres forces de l'opposition, ont accepté de participer à ce dialogue et ils ont fait cette concession là-bas devant, bon, disons qu'ils étaient devant un fait accompli, mais ils ont accepté de bonne foi de faire cette, concession, c'est-à-dire la refonte du fichier. Pourquoi ils ont fait ce choix? Ils l'ont expliqué clairement, c'était pour permettre aussi aux millions de nouveaux majeurs d'exercer leur droit constitutionnel de voter, c'était aussi pour permettre à la diaspora qui est très active politiquement et économiquement et socialement dans notre pays, d'avoir la possibilité d'exercer leur droit de vote pour ceux qui n'ont pas renoncé à la nationalité congolaise. Donc, moi je pense que par rapport à ça, je pense que c'est louable justement de faire une refonte totale du fichier. Et par rapport à cette concession justement, on peut considérer que le pouvoir a aussi gagné parce que c'est le travail qu'il devait faire pendant les 5 ans et pas maintenant lui dire que ce travail sera prêt dans 16 mois.
D'un côté, l'opposition accède à la démarche de la réforme du fichier électoral, pendant qu'elle exige la tenue de la présidentielle avant toutes les élections, affirmant que c'est pour rattraper les temps constitutionnels. Israël, peut-on rattraper les temps constitutionnels tout en s'inscrivant dans cette logique de la réforme du fichier électoral telle que ça s'est fait actuellement par la CENI?
Non, c'est une façon de limiter la casse. C'est une façon de sauver les meubles, de sauver ce qui peut l'être. Nous sommes devant un fait accompli. La présidentielle ne peut pas se dérouler dans des bonnes conditions cette année-ci. Tous les experts internationaux et nationaux ont donné un avis technique sans équivoque là-dessus. Donc, on ne va pas revenir sur les responsabilités politiques de ce retard. Il incombe au gouvernement. Mais par rapport à ça, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on essaye de minimiser justement les atteintes à la Constitution. Et voilà, il faut limiter dans le temps justement ces atteintes à la Constitution. Les formules transitoires genre restent en fonction jusqu'à l'installation de... Ce sont des telles formules qui permettent un peu de sauver l'honneur de la Constitution qui est la loi suprême. Et par rapport à ça, tu as parfaitement raison, la Constitution est déjà dans une certaine mesure violée parce que le 19 septembre prochain, on ne sera pas en mesure de convoquer le corps électoral pour s'exprimer par rapport aux 5 ans passés par Joseph Kabila au pouvoir. Et donc, je pense que c'est un recul et c'est une faute politique lourde. J'espère que l'histoire retiendra. Et on retiendra qu'il y a eu deux gens qui se sont amusés, avec la vie de toute une nation.
Le Rassemblement affirme qu'il attend que ces préalables soient pris en compte pour aller au véritable dialogue. En tant qu'analyste politique, qu'est-ce que vous comprenez par véritable dialogue?
Le véritable dialogue, par rapport à l'entendement du Rassemblement et par rapport même à l'entendement de la communauté internationale, c'est un dialogue qui soit inclusive, un dialogue qui soit inclusif plutôt. Par rapport à ça, personne n'est dupe. Le Rassemblement comprend les forces importantes comme l'UDPS, comprend le G7, comprend certains partis de la dynamique, le MLC n'est pas là. Donc, quand vous prenez le Rassemblement et le MLC, c'est la frange la plus importante de l'opposition. Bien entendu, sans minimiser aussi l'importance de l'UNC, du Front des démocrates et des autres forces qui ont, avec Boussa, qui ont accepté de participer à ce dialogue. Mais il ne faut pas se voiler la face. La frange la plus significative, la plus importante, est en dehors du dialogue.
Merci Danny Singoma, directeur général du Centre national d'appui au développement et à la participation populaire CNADEP en sigle. Vous êtes aussi membre de l'Observatoire de la société civile pour le suivi du dialogue. Une partie de l'opposition refuse de participer au dialogue parce que ses conditions ne sont pas satisfaites. L'autre frange, qui a accepté d'aller à ce dialogue, suspend sa participation compte tenu des divergences de vues. Comment vous analysez une telle situation?
Merci beaucoup. Merci de l'invitation à cette émission. Je pense que pour nous, en tant que société civile, notre analyse de cette situation respecte un premier principe. C'est que chaque composante est responsable de ses affaires internes. Nous ne pouvons pas prendre parti pour une composante ou une autre. Nous ne pouvons que prendre acte de leur comportement sans interférer dans leur gestion interne. Comme nous l'avons dit dans notre déclaration d'hier, nous prenons acte, bien sûr, mais nous comprenons aussi que la raison qui a poussé une composante à suspendre sa participation est liée au fait, comme tout le monde l'a dit, qu'il n'y a pas consensus entre deux composantes sur la question de la séquence électorale. Pour la société civile, cela nous interpelle. Il nous interpelle pourquoi ? Parce que nous nous interrogeons quant à notre capacité, en tant que composante, à nous positionner et même à bloquer les travaux, parce que les autres arrivent à les faire. Est-ce que nous, composantes de société civile, nous pouvons arriver? Jusque-là, notre composante, ou du moins ceux qui nous représentent, n'ont pas encore acquis cette capacité. J'ai dit acquis, car nous, qui ne sommes pas dans les dialogues directement, nous suivons ces dialogues de près, de l'extérieur, et nous œuvrons fortement pour renforcer les capacités de nos collègues qui sont à l'intérieur, afin d'arriver à nous positionner. Nous savons que nos collègues ne sont pas allés au dialogue pour s'y promener ou pour accompagner les autres. Donc, aujourd'hui, nous pensons que les préalables qui sont fixés par les rassemblements ne sont que légitimes, bien sûr. Mais nous, de la société civile, nous pouvons nous estimer heureux parce que grâce à cette position de l'opposition, quand même, nous avons pu retrouver nos camarades, comme Christopher Ngoï ou Fred Bauma. Et nous espérons que l'apaisement ne va pas se limiter simplement à la libération, mais effectivement à permettre qu'il y ait liberté d'expression.
Daniel Singoma, vous faites le suivi des travaux du dialogue. Et comment avez-vous apprécié l'évolution des travaux avant le départ de l'opposition?
Comme je l'ai dit, nous avons apprécié que les travaux démarrent comme ils ont démarré, parce que toute la population attend quelque chose de ces dialogues. Mais aussi, il y a des choses qui nous ont interpellés et qui nous ont vexés en tant que société civile.
Qu'est-ce qui vous a vexé?
C'est le fait que d'abord, le dialogue se tient tellement à huis clos. Nous n'avons pas des échos officiels de ces dialogues, si ce n'est que des communiqués laconiques de la part de la facilitation.
Les travaux ne sont pas publics.
Les travaux ne sont pas publics, mais le chapitre 7, le point 2 du chapitre 7 de la feuille de route, dit qu'à la fin des travaux, il faut un communiqué qui fait les rapports des travaux. Mais jusque-là, nous n'avons qu'une petite page et qui ne nous dit rien réellement de ce qui se passe à l'intérieur. Donc pour nous, il fallait que ce dialogue soit retransmis en direct ou du moins organiser des émissions vraiment officielles qui rendent compte de ce qui s'est passé dans les dialogues. Sinon, nous allons vivre des ondits et ça ne sera pas bon et l'appropriation du dialogue par les citoyens ne sera pas bonne.
Et vous, en tant que membre de la société civile, pourquoi vous n'avez pas transmis, n'est-ce pas, cette doléance à vos délégués qui participent à ces travaux?
Comme je l'ai dit, nous avons nos délégués qui sont là. Mais sachez que la société civile est plurielle, la société civile est diverse et l'entrée n'a pas été facile. C'est que d'abord, la société civile n'a pas eu le temps de s'organiser en tant que composante à part entière pour pouvoir se choisir seul ses représentants. Donc chacun a forcé pour y aller. Nos représentants y sont. Mais quand ils arrivent à l'intérieur, nous les reconnaissons comme société civile et maintenant nous cherchons à créer l'unité au sein du bloc société civile afin que nous ayons la capacité de les interpeller. Mais jusque-là, l'effort est fait. Nous reconnaissons nos camarades, malgré que beaucoup ne voulaient pas les reconnaître au départ, mais aujourd'hui, quand même, nous les reconnaissons. Mais ce qui nous démotive un peu, ou démotive une grande partie, c'est le fait qu'on ne sent pas de prise de position de la société civile. Et effectivement, il n'y en a pas parce qu'ils n'ont pas encore créé un bloc. Et nous travaillons sur cet effet pour que la société civile soit un bloc, une composante à part entière, et non plus se diluer dans les autres composantes, parce que nous avons été choqués quand même d'apprendre que la majorité a dit clairement que 80% des délégués de la société civile ont déjà pris la position de l'AMP. S'il y a 80%, donc il y a 20% qui ne l'ont pas prise. Alors à ce moment-là, ça dit qu'il n'y a pas d'unité et nous travaillons pour qu'il y ait vraiment un consensus et une position unique.
Dany Singoma, le rassemblement parle de véritable dialogue lorsque on répondra à ces préalables. N'est-ce pas là le discours des gens qui savent qu'ils sont incontournables, les gens qui sont conscients qu'au-delà de ce qui s'est fait ou de ce qui se fera, ils finiront par être présents dans ces dialogues?
Comme je l'ai dit, nous sommes une composante. Le rassemblement fait partie de la composante opposition, mais qui n'est pas dans les dialogues. Et nous ne devons pas prendre parti ou bien nous exprimer à la place d'une autre composante. Moi, en tant que composante, en tant qu'acteur de la société civile, je m'en tiens à notre composante. Donc, je peux comprendre les positions et du rassemblement des autres, mais nous ne devons pas interférer dans leurs affaires.
Bienvenue, Joseph Mabondo. Il y a une question qui vous est adressée. Elle vient de Bukavu, c'est de Kivu.
Jardin Igilima à partir de Bukavu au sud Kivu. Le rassemblement tient toujours à ses préalables alors que c'est depuis le 1er septembre que les travaux avaient démarré et la communauté internationale en avait pris acte car l'opposition était représentée. Je me demande ce que prévoit le rassemblement au cas où de ce dialogue sortirait des résolutions. Ceci d'autant plus que l'opposition qui y participe n'a que suspendu les travaux et pourra réintégrer d'un moment à l'autre aussitôt ses revendications prises en compte. Ne va-t-on pas là assister au scénario de l'UDPS à San Suu et au boycott des élections de 2006?
Bienvenue Joseph Mabondo.
Oui, je vous écoute. Oui,
votre réaction par rapport à cette question?
Ma réaction est que la position de l'UDPS, on la connaît, ou du Rassemblement, et depuis longtemps, elle est beaucoup plus à droite, assez radicale. Mais à mon avis, je reviens sur une proposition que j'ai faite dans mon ouvrage que j'ai publié récemment. À mon avis, c'est cette crise que connaît aujourd'hui notre pays peut être résolue par 5 personnes qui peuvent s'asseoir autour d'une table et terminer ces problèmes en un jour. Le chef de l'État actuel, Joseph Kabila, le cardinal Mosengo, M. Étienne Tshisekedi, M. Moïse Katumbi et M. Vital Kamerhe sont des personnes qui représentent la population congolaise aujourd'hui. Nombreux de ceux qui sont au dialogue aujourd'hui ne peuvent même pas mobiliser leur propre village. Ces 5 personnalités ici peuvent se retrouver autour d'une table sans modérateur et résoudre les problèmes du pays en un jour. Ensuite, on va inviter tous les autres leaders, qui ne sont pas moins intelligents pourtant, mais qui n'ont pas une grande population derrière eux, et les autres peuvent venir ensuite pour formaliser. Parce que la crise n'est pas la crise de la Constitution, nous avons une bonne Constitution, mais simplement les élections n'ont pas été organisées à temps. Donc ces 5 personnalités peuvent s'asseoir et dire, bon voilà, nous n'avons pas organisé les élections à temps, qu'est-ce que nous faisons pour le moment? Bon. Ils résolvent le problème entre eux et ça va donner de la valeur à notre pays parce qu'aujourd'hui, résoudre simplement la question des élections, il faut un facilitateur international, c'est humiliant. Sincèrement, je lance un appel, moi aussi j'en profite pour lancer un appel pathétique, patriotique et historique à ces 5 personnalités de s'asseoir autour d'une table sous l'arbre à palabres et de régler ces problèmes. Réunir 200 personnes, c'est bien, c'est encore de l'argent qu'on perd, l'argent que nous cherchons pour les élections, pour organiser les élections, on perd ça encore dans des conciliabilités inutiles. Normalement, ces 5 personnalités peuvent s'asseoir, à l'instar de Nelson Mandela et Frédéric de Klerk, ensemble en Afrique du Sud, ils ont pris l'histoire de leur pays et ils ont décidé, ils avaient derrière eux d'autres personnalités qui les suivaient, mais les deux-là, ils ont même eu le prix Nobel de la paix pour ça. Et beaucoup de nations au monde, nous le savons, ont eu une vie sauve grâce à quelques personnalités seulement. Si ces 5 personnalités s'assoient, en un seul jour, la crise va être destruite. La population sera contente. Tout ce que nous sommes en train d'attendre le 19 septembre, il y aura ceci, il y aura cela, ça va s'arrêter d'un coup. Et le chef de l'État, c'est lui le chef du pays. Il suffit qu'il décide aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais rencontrer Tshisekedi. il va les rencontrer. Il ne changera pas. Tshisekedi restera une personne historique, non seulement pour le pays, mais pour l'Afrique. Moïse Katumbi, aujourd'hui, on peut tout dire. Eh bien, on ne peut pas dire de quelqu'un qui a fait gagner à Mazembe 3 Coupes d'Afrique et qui, dont les joueurs sont allés aussi à l'équipe nationale, ont fait gagner beaucoup au pays. Et quand il était dans la majorité présidentielle, on disait que c'était le plus grand gouverneur. On ne peut pas aujourd'hui nous dire qu'il ne vaut rien. Et il ne mérite pas d'être en exil comme ça, comme quelqu'un qui manque le pays. On ne peut pas nous dire aujourd'hui que le cardinal Mosteng ne représente pas beaucoup. On ne peut pas non plus nous dire que Vital Kamerhe ne représente pas beaucoup. Que ces cinq personnes s'assoient et résolvent les problèmes de notre pays. Je leur lance un appel pathétique, patriotique et historique. Voilà la solution au problème du pays.
Oui, c'est bon l'idée que vous venez de proposer, mais vous pensez que dans la pratique, c'est serait facile que ces cinq personnalités se retrouvent autour d'une table et discutent jusqu'à trouver une solution à la crise qui guette le pays. Vous pensez que dans la faisabilité, c'est facile?
Il y a des choses que nous pensons parfois qu'elles sont compliquées, mais en réalité, quand vous y allez sur le terrain, c'est facile. Je me rappelle lorsque Vital Kamerhe était proche du chef de l'État. C'était son proche collaborateur. Je vis moi-même à la télé à plusieurs reprises. Ils sont allés rencontrer Jean-Pierre Bemba dans sa résidence. Ils sont sortis ensemble, ils sont allés rencontrer Hérodia. Ils rencontraient tous les autres leaders ensemble. C'était bien, le pays était bien, c'était beau. Alors aujourd'hui, si le chef de l'État actuel dit « Je souhaite rencontrer le président Étienne Tshisekedi, qu'on parle à lui », qui va les en empêcher? Personne.
Merci.
Au contraire, le peuple sera content.
Merci.
Il dit que je vais rencontrer Moïse Katumbi. Il l'a rencontré au retour de Moïse Katumbi de Grande-Bretagne lorsqu'il était malade une fois, quand il est revenu avec l'histoire des pénaltys. Moïse est monté à Kinshasa, ils se sont rencontrés avec les chefs de l'État pendant plusieurs heures.
Merci, bienvenue Joseph Mabondo.
C'est facile, c'est pas difficile.
Merci, bienvenue Joseph Mabondo, Israël Moutala. Il y a une question qui vous est adressée, elle vient de Lubumbashi.
Serge Mapendano, depuis Lubumbashi au Katanga. Il est déplorable de constater la persistance de l'intolérance politique et de l'incompréhension mutuelle entre tous les acteurs politiques congolais jusqu'à présent, alors qu'on s'approche de plus en plus de la date cruciale du délai constitutionnel. À mon avis, ces opposants devraient tous retourner à la table du dialogue avec leurs partenaires du rassemblement afin de bien peser, ce qui aurait l'avantage d'amener la majorité à suivre la bonne voie capable de résoudre pacifiquement l'impasse actuelle, car le peuple congolais ne veut plus jamais supporter d'autres crises de légitimité au pays. Et donc, j'exhorte toutes les parties à mettre de côté leurs intérêts individuels, à privilégier avant tout l'intérêt supérieur de la nation qui aspire aujourd'hui à la paix et au développement durable.
Oui, Israël Moutala.
Bon, ce n'est pas une question, il a fait sa contribution. Le problème, c'est quoi? Au mot intérêt supérieur de la nation, chacun, c'est un concept dans lequel chacun
a sa perception.
On fait dire tout et n'importe quoi ces concepts. Pour la majorité, l'intérêt supérieur de la nation, c'est commencer par les locales et terminer par les présidentielles. Une véritable absurdité. Pourquoi absurdité? Parce que je rappelle que les locales et les municipales, c'est à peu près 60 000 personnes qu'il faudra à payer en termes de personnel politique et personnel d'appoint, le personnel administratif.
C'est les élections les plus complexes.
C'est les élections les plus complexes. Et donc, voilà, ça va demander d'abord 60 000 nouvelles personnes qui vont émerger au budget de l'État. Et pour ça, il faudra trouver une enveloppe minimum de 50 millions de dollars par an. Et ces 50 personnes doivent avoir des bureaux, doivent travailler, doivent avoir des frais de fonctionnement. Il faudra chercher dans les 150 millions de dollars. Donc, on est autour de 200 millions de dollars pour mettre en œuvre les élections. Je ne parle même pas de préalables législatifs. Je ne parle même pas de l'accessibilité. Je ne parle même pas de la viabilité de toutes ces entités. Je rappelle que c'est à peu près 97 villes. C'est 336 communes urbaines, 267 communes rurales, 474 secteurs, 259 chefferies. Et donc, voilà à peu près ce que, pour la majorité, l'intérêt...
Vous pensez que la majorité, en soutenant cette idée-là, n'a pas pensé à toutes ces implications?
Non, soyons sérieux, ils ne sont pas sérieux, ces gens. Quand ils disent ça, ils ne sont pas sérieux, il faut qu'on respecte le peuple. Donc, c'est comme si on ajoutait l'immoralité à l'indécence déjà du fait qu'on n'a pas respecté la Constitution. Je pense qu'à un moment, il faut qu'on soit sérieux dans ce pays. on n'a pas été en mesure d'organiser les élections dans le délai constitutionnel, mais il faut quand même avoir le profil bas, il faut quand même être assez humble et aller à l'essentiel pour résoudre la crise actuelle qui découle de la non-organisation des élections présidentielles dans le délai constitutionnel. C'est clair comme l'eau de roche. Mais pourquoi aller chercher les élections locales aujourd'hui? Pourquoi ne les a-t-on pas cherchées en 2006? Pourquoi ne les a-t-on pas cherchées en 2011? À la fin, il faut être sérieux à un moment dans ce pays et éviter à ce pays des drames. Je rappelle aussi que nous sommes dans un contexte économique difficile. Le gouvernement se dit aujourd'hui, je n'ai pas pu organiser les élections parce que j'ai fait la guerre, parce que la conjoncture économique n'est pas bonne. Mais cette même conjoncture économique n'est pas bonne aujourd'hui. Elle s'est empirée parce que les réserves d'échange ont franchi la barre du milliard. Elles sont maintenant en dessous du milliard. Elles avaient presque atteint 2 milliards à une époque. Maintenant, nous sommes en dessous de 1 milliard de réserves d'échange. Ça montre que nous avons une économie fragile. Et cette économie fragile ne mérite pas justement de nouveaux chocs endogènes avec la multiplication des institutions. Mais nous voulons être respectueux de la Constitution. C'est vrai, cela va de soi. Mais on peut postposer les locales. Ce ne sont pas les locales qui sont à la base de la crise actuelle.
Merci. Dani Singoma, il y a une question qui vous est adressée, elle vient une fois de plus de Bukavu au sud Kivu.
Robert Wame de Bukavu au sud Kivu. L'opposition qui participe au dialogue en suspendant sa participation se rend finalement compte que la plateforme Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement a bien raison de ne pas présentement aller au dialogue. Je pense qu'il serait alors mieux que toute l'opposition congolaise se mette cette fois-ci ensemble pour adopter des stratégies pouvant lui permettre de faire face aux actions politiques de la majorité tendant à écarter le dialogue national de ses vrais objectifs. Autrement, elle ne réussirait jamais à ébranler la majorité.
Monsieur Dani Singoma.
Oui, la question de l'opposition me revient et pourtant j'ai bien dit que notre composante société civile ne peut pas s'engager ou répondre des composantes autres. Mais j'ai dit que effectivement. Et peut-être qu'il a raison quand il dit que l'opposition pouvait tirer...
Vous êtes citoyen, vous pouvez mettre un point de vue.
C'est ça. Donc l'opposition peut tirer profit de cette suspension des travaux pour se mettre ensemble. Mais encore, il faut savoir que la seule composante qui est la plus homogène possible, c'est la composante majorité présidentielle. Parce que elle répond de quelque chose d'unique. Mais la composante opposition... Et pluriel aussi. Et dans l'opposition, chacun peut se définir comme il veut. Nous savons qu'il y a des oppositions modérées, des oppositions radicales et consorts. Donc parfois, il est difficile d'avoir une composante opposition homogène. Donc ce qui est arrivé dans l'opposition, c'est parce qu'il peut y avoir divergence de vues, mais tous sont opposants. Ils sont opposants à quelque nature que ce soit, et ce n'est pas à moi, en tant que composant de société civile, d'avoir un curseur pour mesurer qui est opposition et qui ne l'est pas. Mais la situation actuelle nous interpelle quand même à savoir que la nature de l'opposition qui est dans notre pays n'est pas une opposition idéologique, et nous ne savons pas si l'opposition se fonde sur quoi. Nous avons des oppositions, mais elles ne sont pas idéologiques, on ne sait pas ce qu'elles défendent par rapport à une aspiration d'une société, si le plan culturel, économique et politique, mais ils sont opposants parce qu'ils s'opposent soit à un individu, soit à un système. Et cela nous interpelle beaucoup et nous ne pouvons que souhaiter bonne chance à l'opposition pour qu'elle arrive à trouver des points de convergence et former une composante à part entière. Mais si le rassemblement trouve qu'elle ne trouve pas satisfaction dans ce qui se passe, c'est son plein droit de refuser d'être là.
Et votre point de vue par rapport à la proposition faite par Bienvenue Joseph Mabondou, qui estime qu'on n'a pas besoin de plus de 200 personnes pour trouver une solution à la crise qui guette le pays. Il estime que ces 5 personnalités pourraient suffire pour trouver cette solution. Il a parlé de Kabila, Tshisekedi, Katumbi, Kamere et Monseigneur Monsengo.
Il a raison. Il est dans la théorie de la sphère des influences et nous avons 5 sphères d'influence qui sont ces gens, mais qui sont représentés au dialogue. Le chef de l'État, Joseph Kabila, est représenté par la majorité. Et le cardinal Monsengo, on ne peut pas dire, mais on sait que l'Église catholique est là. Et Tshisekedi et Katumbi, c'est l'opposition, les rassemblements et consorts qui n'est pas dans les dialogues. Et Vital Kamerhe est aussi avec l'opposition qui fait partie prenante au dialogue. Donc, les 5 sphères d'influence sont là et les gens sont derrière, mais ils oublient la société civile. Parce que, je ne sais pas, il n'y a pas une personnalité qui incarne la société civile. Disons que c'est Monsengo. Peut-être. Mais la composante église fait, les confessions religieuses font parfois bloc à part. Mais nous pouvons l'estimer qu'il est de la composante société civile. Donc, à ce moment-ci, toutes les composantes sont dans sa théorie et je ne vois pas pourquoi on peut accorder le monopole de la parole à 5 personnes simplement afin qu'ils nous expriment leur idée profonde alors qu'autour de ces personnes, nous pouvons accepter qu'il y a divergence aussi d'idées qui peuvent aller vers une convergence quelconque et tout le monde a droit à participer au dialogue pourvu qu'il se confine dans une composante ou dans une sphère d'influence. Mais simplement aussi, les gens qui sont au dialogue, ils y sont, mais la population s'est dit ne pas être totalement représentée parce qu'elle n'a pas connu les modes de choix pour que ces gens partent là-bas.
Comment entrevoyez-vous la suite? Bienvenue Joseph Mabondo. L'opposition pro-dialogue pourrait-elle réintégrer ces forums?
À mon avis, l'opposition pro-dialogue peut réintégrer si seulement on accepte sa proposition, parce qu'elle ne va pas perdre la face face à l'opposition qui ne va pas participer. L'opposition qui ne participe pas aura probablement raison dans les jours qui viennent. La population pourra lui donner raison. Donc Vital Kamerhe n'a pas intérêt à détruire sa carrière politique. Donc elle va camper sur sa position. Ça, c'est mon avis. Si Vital Kamerhe accepte et regagne les négociations sans avoir rien obtenu, eh ben, il aura en ce moment-là perdu un peu son aura. Ça, c'est mon avis. Donc, la majorité devra céder.
Comment prévoyez-vous la suite d'Israël Moutala? Le rassemblement pourrait-il aller jusqu'où dans sa logique?
J'aimerais d'abord dire que sur Vital Kamerhe, il a été lynché médiatiquement pour le courage qu'il a eu d'aller aux négociations sans exiger le préalable. Je rappelle d'abord qu'aucun parti n'est opposé au dialogue politique parce que les uns ont posé des conditions qu'on appelle préalables, d'autres les avaient posées, mais on dit qu'on va quand même y aller tout en espérant que ces conditions soient remplies d'ici la fin du dialogue. Donc, il a eu quand même ce courage d'aller au dialogue, mais je pense que sur cette question, il avait dit clairement qu'il n'était pas allé là-bas pour violer la Constitution. Et donc, ce n'était pas une posture politicienne. Et même quand il exige justement qu'on commence par la présidentielle plutôt que par les locales, ce n'est pas une posture. Et donc, s'il n'a pas cette concession majeure, je ne pense pas que Vital Kamerhe va retourner au dialogue.
Et jusqu'où pourrait aller le rassemblement?
Le rassemblement aussi, ils sont très sérieux, ils sont très cohérents, ils ont posé des préalables, et ce sont des préalables, justement, parce que ce sont des préalables qui sont fondés. Vous avez vu, d'abord, que le pouvoir était dans le déni total. Le ministre de la Communication, Lambert Mende, les communicateurs de la majorité disaient qu'il n'y avait aucun prisonnier d'opinion ou politique. Mais Tambwe Mwamba les a presque démentis parce qu'il a dit que sur tout ce qu'il a libéré, plus d'une centaine de prisonniers et d'autres vont suivre, il y avait des prisonniers d'opinion. Ça veut dire des gens qui se promenaient avec une banderole, Kabila, c'est ton dernier mandat, on les a arrêtés. Et Tambwe Mwamba l'a reconnu. Et je finis en disant, par exemple, sur la théorie des sphères d'influence. Écoutez, vous prenez une personnalité comme Étienne Tshisekedi, il y a plusieurs jeunes qui se reconnaissent en lui. Il n'y a aucune structure de la société civile qui représente les jeunes ou qui défend les intérêts des jeunes, qui peut dire que j'ai plus de jeunes dans ma structure qu'Étienne Tshisekedi. Donc, les personnalités aussi charismatiques qu'Étienne Tshisekedi, que Moïse Katumbi, que Vital Kamerhe, à elles seules, représentent la société dans toute sa diversité. L'Église catholique, il y a des femmes, il y a des jeunes, il y a des vieux, et c'est 440 millions de Congolais, c'est une force. Donc, moi, cette question, je pense que sans le rassemblement, on tape à côté.
Et votre conclusion?
Ma conclusion, c'est
que... Est-ce qu'on ne tend pas des négociations directes, ce qu'a dit Kabila, à travers le rassemblement et à travers la majorité présidentielle?
Bon, je ne crois pas tellement au miracle d'une rencontre directe entre ce qu'a dit Kabila. Parce que si Kabila n'est pas de bonne foi, il peut rencontrer ce qu'a dit 1000 fois, rien ne sortira de bon. Mais si Kabila est de bonne foi, il reconnaît sa part de responsabilité dans la non-organisation des élections et qu'il fait amende honorable, je pense que les Congolais lui seront gré.
Merci Dany Singoma. Quel pourrait être le plan B de la majorité présidentielle si les choses ne changent pas, si l'opposition pro-dialogue ne revient pas et les rassemblements maintiennent sa position? Votre point de vue?
Conclusion. Bon, je ne peux pas entrer dans les secrets de la majorité présidentielle, mais je pense que si vraiment le rassemblement ne vient pas au dialogue, le dialogue va continuer si l'autre opposition retournée. Le dialogue va continuer, va se terminer, mais nous risquerons de passer à une seconde phase d'une négociation autre ou de conciliation entre les idées du rassemblement et de l'ensemble d'idées forces qui sortiront du dialogue. Donc c'est ce schéma qui se dessine parce que nous avons entendu, même l'Église catholique a dit qu'il y a des rencontres, c'est de ça qui se passe par-ci par-là. Donc merci. C'est ça un peu le sort qui est réservé au dialogue.
Bienvenue Joseph Mabondo, votre conclusion, est-ce qu'on ne tend pas vers les négociations directes entre Tshisekedi et Kabila à travers le rassemblement, à travers la majorité présidentielle?
Je crois encore au miracle. À mon avis, si le chef de l'État, qui est le garant des institutions, c'est lui qui doit veiller à la Constitution et assurer le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions, s'il ne fait pas le premier pas, je pense que le cardinal Motsengo a encore un rôle à jouer.
Merci.
Il peut aller vers le chef de l'État, le rencontrer, il peut voir le rassemblement et la solution à cette crise peut être trouvée. Je crois au miracle.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Adrien Mongou qui était à la technique. Merci à Alain Hirung, Kelly Koute et Berry Franklin Luchaka sous la supervision de l'équipe Elamondo, à la présentation Guy Maté. Merci et bon suite de programme sur Radio Capi.